Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais aborder cette semaine le risque chimique. Alors le risque chimique en cette période de fête, où certains ont fait de la chimie d'ailleurs, dans leur verre d'apéro, leur verre de vin et leur verre digestif, ils ont fait des mélanges. Donc l'idée m'est venue de prendre cette fois-ci comme thème le risque chimique, mais à l'entreprise. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un produit chimique ? Première question. Le Code du travail donne une définition des agents chimiques qui intègrent les mélanges, ça c'est important. La mise ou non sur le marché, c'est pas un critère. Les déchets aussi et les créations non intentionnelles, les fumées par exemple. Il s'ensuit ensuite donc toute une série de réglementations qui vont classer les agents chimiques dangereux. On va parler des ACD, il y a toute une littérature là-dessus, des obligations. Et aussi les produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques qu'on va appeler les CMR. Donc deux réglementations qui pour beaucoup se rejoignent, mais un peu plus sévères heureusement pour les CMR. Donc il ne faut pas oublier tout d'abord dans l'entreprise, dans notre réflexion, les produits dégradés comme les fumées qui peuvent créer des risques inexistants dans les produits initiaux, bien évidemment. C'est le cas des huiles usagées, des fumées de soudure et bien d'autres. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil avec les fêtes de certains mélanges. Et donc cet effet cocktail en chimie, il est particulier puisque en matière de chimie, vous le savez, 1 plus 1 ne fait pas 2. Donc ces effets cocktail sont à prendre en considération puisqu'on peut avoir le dégagement de risque qui n'existait pas au départ ou même le contraire. Alors, dans les agences chimiques sont classées aussi les poussières minérales d'amiante, de silice et d'autres, les nanoparticules qui sont concernées par la réglementation sur les agents chimiques. Donc, c'est assez vaste. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation? Alors, l'idéal est de connaître le numéro de CAS. Alors, c'est CAS. Hein, c'est une banque de données pour Chemical Abstract Service qui a donné un numéro d'enregistrement aux 150 millions de produits chimiques. Vous voyez qu'il y a ce qu'il faut. Alors, le CAS, c'est un numéro d'immatriculation, comme je viens de le dire, du type de produit. Alors, souvent, on ne l'a pas. Mais je le signale tout de même, puisque si on l'a, c'est quand même l'idéal. Il y a aussi, mais seulement pour la partie risque, un classement réglementaire qui est symbolisé par les pictogrammes. Alors, que penser de ces pictogrammes ? Vous savez que ce sont les dessins sur des plaques orange qui nous donnent, en fin de compte, 9 types de risques. Voilà. Alors, c'est la réglementation dite CLP qui s'applique au niveau européen. Ce sont des décisions européennes et elles sont sous le poids du patronat européen avec un chantage à l'emploi permanent, je le dis, parce que ce classement des produits chimiques en fonction de leur niveau de risque, eh bien, c'est un arbitrage politique, c'est pas un arbitrage scientifique. Donc, soyons très prudent sur les types de classement. Il y a donc 9 pictogrammes de danger. Vous voyez par exemple le losange où on voit une main brûlée pour les produits corrosifs. Un autre où on voit un poisson mort pour les produits toxiques pour l'environnement. Un autre où on voit une explosion, etc. Donc ça, ce sont les classements sur 9 types de risques au niveau de la réglementation européenne. En parallèle de ça, et distinctement surtout, il y a le Centre international de recherche sur le cancer, dit le CIRC, dont le siège est à Lyon. Donc on a une instance internationale qui est basée en France, c'est quand même intéressant, qui, elle, pour sa part, fait son propre classement. Le classement CIRC est donc pas à confondre avec le classement européen, mais il nous donne quand même des indications intéressantes. Hein, classé 1 pour cancérogène, classé 2A pour probablement cancérogène et classé 2B pour peut-être cancérogène. Vous voyez qu'il y a quelques nuances, mais en matière de prévention, de toute façon, on prend toujours le critère le plus large, puisqu'on ne fait pas de la prévention avec des certitudes, on fait de la prévention simplement quand il y a un risque. Donc le risque n'est pas la certitude. Alors, quelques obligations dans l'entreprise. La première, c'est l'obligation d'évaluation des risques, une obligation générale pour tout, qui est rappelée aussi pour les procédés de fabrication, les substances ou les préparations chimiques. Cette évaluation des risques doit être complète, elle doit être exhaustive. Elle est obligatoirement consignée dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Donc, vous devez trouver dans ce document unique d'évaluation des risques qui est d'accès à tous, donc on ne peut pas vous refuser de le regarder, ce qui vous interroge par rapport à une substance chimique. Donc, obligation d'évaluation des risques et obligation de consigner ces risques dans le document unique d'évaluation des risques. La deuxième obligation, c'est l'étiquetage, qui est une obligation, y compris pour les mélanges et y compris en cas de reconditionnement. Donc, si on vous met un produit dans une fiole qui n'est pas le contenant d'origine, on doit retrouver l'étiquetage obligatoire sur cette fiole. Donc, l'étiquetage obligatoire doit comporter le nom du fournisseur, l'identification du produit chimique, le pictogramme de danger et la mention d'avertissement, la mention de danger, les conseils de prudence, le tout dans la langue comprise par l'utilisateur. Donc, en théorie, on ne devrait pas se poser de questions. Tout doit être consigné, en tout cas à l'essentiel, sur le contenant, même si ce contenant n'est pas celui d'origine et même s'il s'agit d'un mélange. La troisième obligation, c'est un document qui s'appelle la fiche de données de sécurité, dite FDS, obligatoirement donnée par le fournisseur, si le produit vient du fournisseur, et toujours dans la langue comprise par l'utilisateur. Donc, si ce n'est pas le fournisseur, si le produit a été fabriqué dans l'entreprise, cette obligation reste à faire, soit par le fournisseur, soit par l'entreprise elle-même. Il y a également une autre obligation, c'est celle de respecter la hiérarchie de la prévention. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette hiérarchie de la prévention ? C'est tout simplement de mettre la priorité sur la substitution en cas de produits dangereux et la suppression du risque en cas d'exposition. Donc, remplacer le produit dangereux par un produit moins dangereux ou pas dangereux, c'est une obligation réglementaire. Et puis, il y a aussi l'obligation d'informer et de former les salariés concernés par les risques chimiques de leur poste de travail. Voilà un petit peu quelques obligations. Il y en a également une qui est peu utilisée, mais le texte est très clair. C'est l'établissement d'une notice de poste, donc pour le poste de travail, pour chaque poste de travail, où la situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux est décrite, et aussi et surtout, je dirais, sur le comment faire pour ne pas être exposé par diverses dispositions et en priorité les équipements de protection collective. Voilà ce que je voulais vous dire sur les produits chimiques. Il y a encore une autre obligation, c'est tout ce qui concerne les locaux qui sont appelés les locaux à pollution spécifique. Il y a une réglementation pour tous les locaux où les travailleurs sont en contact avec des vapeurs, des aérosols, des fumées, des poussières, etc. Dans ces locaux, la ventilation doit être convenablement dimensionnée, convenablement contrôlée tous les ans avec un traçage sur un registre spécial. Donc le local en lui-même au sens large, hein, ça peut être en guerre aussi, doit obéir à une réglementation spécifique par rapport à l'aération du local en question. Alors une petite critique, enfin une petite alerte sur ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition. Hein, vous en avez peut-être entendu parler, pour certains produits, il y a ce qu'on appelle une valeur limite d'exposition, la VLE. Ces valeurs ne sont absolument pas des seuils de protection, mais des seuils décidés politiquement au niveau européen. Pour les cancérigènes, il faut savoir que les cancérigènes se foutent complètement d'ailleurs d'un seuil de VLE. Hein. Les cancérigènes, ils fonctionnent quel que soit le seuil de VLE. Donc les VLE ne sont pas une protection. C'est une espèce de négociation faite au niveau européen où ceux qui décident à votre place décident qu'il serait tolérable de pouvoir être exposé à telle ou telle valeur. Mais sur le fond, c'est tout à fait inacceptable. Alors toujours sur les risques chimiques, je vais vous donner quelques aides pour essayer de vous y retrouver. Tout d'abord, de solliciter vos délégués si vous en avez dans l'entreprise ou votre syndicat pour essayer de vous aider pour y voir plus clair. À défaut, vous pouvez vous rendre à une union locale de syndicats du département pour essayer d'obtenir de l'aide dans le domaine. Il y a aussi, et c'est leur boulot, le médecin du travail du service de santé au travail, qui sont, de par la loi, les conseillers des représentants du personnel et des salariés. Donc, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour vous aider, notamment sur la question du risque chimique. Il y a aussi l'inspecteur du travail qui peut se faire aider parce qu'ils ont en soutien technique des ingénieurs prévention qui, eux, sont vraiment de véritables spécialistes et qui sont là pour les aider et donc pour vous aider à tirer un peu les affaires au clair en matière de risques chimiques rencontrés. Vous avez aussi le service prévention de la CARSAT qui dispose d'ingénieurs et de techniciens spécialistes en prévention et qui ont parfois d'ailleurs des laboratoires d'analyse. Donc au niveau de la CARSAT, il y a un service prévention avec des ingénieurs prévention qui sont, je dirais, particulièrement pointus sur ces questions. Et vous avez sur Internet aussi l'Institut National de Recherche et de Sécurité, dit INRS, où vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations sur la toxicité du produit en question, les fiches toxicologiques, un guide sur le comment faire, des brochures téléchargeables, etc. Donc vous pouvez aussi trouver pas mal d'éléments sur la question. Vous avez aussi les centres anti-poison et de toxicovigilance, qui en général sont assez restreints dans leur domaine d'examen, mais vous pouvez quand même les solliciter. Ils peuvent, eux, agir, surtout c'est en cas d'urgence, mais aussi en cas de suspicion d'effets à long terme sur les produits chimiques en question. Ils ont notamment les moyens d'agir sur la composition exacte de l'intégralité du produit que je qualifierais de douteux. Voilà pour ce qui est du risque chimique. N'oubliez pas votre droit de retrait en cas de danger grave et imminent qui peut être utilisé si, de bonne foi, vous craignez un danger grave et imminent pour votre santé. Un petit mot pour Macron, que j'allais quand même pas l'oublier, puisque Macron a supprimé en 2017 le risque chimique des 10 critères de pénibilité, donc le risque chimique ne fait plus partie, selon la décision de notre président de la République, des critères de pénibilité. Alors j'ai bien conscience que cette chronique est un peu lourde, mais si vous voulez creuser, vous pouvez tout d'abord l'écouter ou la réécouter en podcast, et je reste à votre disposition. Je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Rubrique CFM Cléus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.